La matière, c'est la vie aussi.
Toutes ces idées qui viennent, il faut les attraper comme des mouches quand elles passent. Ce sont des idées bleues, des idées roses, des idées qui passent.
L'art et la matière. Une émission de Jean Deloisy.
Parce qu'on veut transformer la vie pour nous.
Ils empruntent des chemins qui n'existent pas, ils utilisent des formes et des mots inconnus, ils transforment ce que nous savions du monde, ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière. Aujourd'hui, une émission un peu particulière puisque nous ne découvrons pas une exposition, nous n'étudions pas un mouvement artistique du passé, nous ne lisons pas un nouveau livre, cette fois-ci une ville. Et nous en rencontrons les principaux acteurs pour essayer de saisir ce qu'une politique culturelle inventive transforme. Arles, 54 000 habitants, une ville pauvre marquée par des crises économiques successives au XXe siècle et qui semble aujourd'hui pouvoir prendre une importance considérable dans la région méditerranéenne. Bien sûr, Arles dispose d'un patrimoine romain inouï à Rennes, le cimetière des Aliscans, le théâtre antique bien sûr, mais aussi un patrimoine médiéval, renaissant, classique et maintenant moderne. Mais le succès et les ambitions des acteurs engagés sur la création d'aujourd'hui créent une situation nouvelle dont nous allons ensemble essayer de comprendre les enjeux. Grands artistes invités par les rencontres d'Arles ou par le centre culturel du Méjean, le lieu culturel des éditions Actes Sud, ouverture prochaine de la fondation Luma, symbolisée par la tour confiée à Franck Guéry, mais dont les ambitions débordent largement ce lieu, nouveau bâtiment pour l'école de photographie et surtout l'installation de nombreux créateurs, de jeunes artistes ou de figures de l'art comme Liu Fan qui va y installer sa fondation, mais aussi de jeunes galeries, des espaces alternatifs qui aiment s'associer à ce nouveau dynamisme. Arles donc, nouvelle capitale de la création ? Peut-être. À 40 minutes de Montpellier, d'Avignon, de Nîmes, de Marseille, à 50 minutes de Sète. Arles donc entre la Camargue et les Alpilles, toutes protégées au titre des parcs naturels, auprès de la plaine de la Croix, écosystème steppique unique en Europe, aujourd'hui menacé par des extensions autoroutières d'un autre âge, sera-t-elle l'accomplissement du rêve de Van Gogh ? Souvenez-vous, le rêve qu'avait eu Van Gogh en s'installant à Arles en février 1888. Il souhaitait faire venir les artistes, les installer. Il supplia Gauguin de le rejoindre, en sollicita d'autres qui ne vinrent pas pour les faire profiter de la lumière, des paysages et du charme de la vie frugale. Il aménagea la fameuse Maison Jaune dans le quartier de la Cavalerie, juste à côté de l'actuelle gare d'Arles, pour accueillir ses pensionnaires, sorte de préfiguration au fond d'une fondation pour l'art contemporain. Pour savoir si ce pari est réussi, découvrons ensemble artistes, fondateurs, galeristes, directeurs du musée ou d'école, pour comprendre ce qui se trame en Camargue. Bonjour Jean-Paul Gavitani.
Bonjour.
Merci de nous recevoir dans les locaux d'Actes Sud, juste à côté du Méjean. Autrefois, on disait l'association du Méjean, et maintenant, c'est devenu tellement le nom d'un des lieux de pensée, d'expression et de vie d'Arles.
C'est un lieu singulier, en fait. Le Méjean, c'est un tout petit quartier triangulaire qui se trouve à l'angle de la ville romaine et de la ville ancienne, de la ville indigène à l'époque des Grecs. Et donc c'est la triangulation romaine n'a pas bien joué à Arles, ce qui fait que pour établir l'équilibre, on a fait ce petit quartier. Il s'appelle le Méjean, ça veut dire le milieu.
Et qui est le lieu maintenant, le milieu de la culture, donc inventive, et grâce à Actes Sud et à cette association formidable. Jean-Paul Capitani, vous êtes installé à Arles autour de 1983, vous étiez déjà dans l'aventure d'Actes Sud, donc à ce moment-là, vous n'étiez pas ici, vous étiez au Paradou.
Les éditions étaient au Paradou,
c'était les éditions de Hubert Nissen, oui. N'est-ce pas, le début d'une très grande aventure, maintenant c'est devenu extrêmement important. Et du coup, vous avez vu, participé, agi et vu la transformation de la ville depuis une quarantaine d'années. Comment est-ce que vous décririez cette transformation, du point de vue de la culture, bien sûr?
La culture, c'est une pratique. Donc, quand j'ai voulu créer ce lieu où il y avait des cinémas, un restaurant et une librairie que je voulais créer, je me suis dit, avec qui vais-je créer la librairie? On m'a dit, un éditeur au Paradou, je suis allé voir Hubert, j'ai rencontré Françoise, elle est devenue ma compagne, et du coup, on a fait la librairie ensemble. Donc, c'est dans le but de créer ce lieu culturel, mais À l'époque, j'étais agriculteur en Camargue, je faisais du vin biologique et j'avais aussi des moutons dans la croix. Et je trouvais intelligent de rassembler tout ça, d'avoir aussi une vie culturelle, parce que c'était un peu déficient à ce niveau-là. Quoi. À l'époque, il y avait Yvan Audouard à Arles, c'était la grande gloire locale, mais c'est tout, quoi. Je veux dire, il ne se passait pas grand-chose. Pourtant, c'est une ville très importante.
Il y avait déjà les premières rencontres d'Arles.
Ah, les premières rencontres ont commencé, oui.
Ça a été important quand même.
Considérable, mais au début, ça a commencé petit. Je me souviens, dès l'existence du Méjean, on a participé à des expositions, etc. Donc, c'est vrai que le standing photographique de la ville d'Arles a beaucoup évolué. Oui.
Et le standing culturel est en train d'évoluer largement. Il y a énormément d'initiatives, parfois des initiatives très discrètes de petites associations ou d'artistes qui se regroupent pour travailler, résister, inventer. Et puis des très gros projets. Certains sont les vôtres, d'autres sont ceux d'autres fondations qui sont en train de se créer. Comment est-ce que vous ressentez cette transformation de la ville ?
Il y a eu un protocole d'accroissement, mais ça a quand même été long, hein, on parle de 40 ans. L'arrivée d'Harmonia Mundi quand même était important.
Ça c'est pour la musique
qui est venue nous rejoindre.
S'est ici, oui.
Et voilà, c'est quand même important. Puis bon, effectivement, la création de la Fondation Van Gogh par Luc Hoffmann est considérable. Ça a vraiment été un changement d'échelle à ce moment-là. Ensuite, il y a eu les projets des ateliers. Et puis, évidemment, les rencontres de la photo, pendant tout ce temps, ont continué le travail magnifique qu'ils ont fait depuis le début et qui se continue avec Sam Tourzé. Je crois que vous allez
le rencontrer, bien sûr. Oui.
Mais vraiment, c'est quelqu'un d'important parce qu'il a fait basculer, disons, l'échelle des rencontres. C'est vrai que François Hébel avait fait aussi un beau travail. Donc voilà, c'est un travail lent, c'est une pratique culturelle qui repose sur des gens qui étaient là et qui ont eu envie de faire, quoi, je veux dire.
Et vous parliez tout à l'heure de Luc Hoffmann, qui en plus a associé, on peut dire, à Arles, cette Camargue auquel il a donné un sens et une protection extraordinairement importante, puisque c'était ce grand ornithologue comme ça qui se passionnait pour les zones humides et qui a offert, au fond, au territoire, une zone qui est devenue protégée.
Il a contribué à protéger dans le monde entier. Hein.
Oui.
À partir de la Camargue, là où il était, où il a fait des choses extraordinaires.
Afrique, Portugal.
Voilà, en Afrique, en plein endroit.
L'un des cofondateurs de WWF. Et donc, et un des mécènes d'Arles, puisque vous parliez de la fondation Van Gogh, c'est sa fille qui est en train de créer la fondation Luma, qui va être aussi un élément très important du dispositif culturel. Et au fond, vous-même, vous êtes en train de travailler et de collaborer à l'installation d'une autre fondation qui sera la fondation Liu Fan, qui va s'installer ici, ça va faire une densité extraordinaire d'initiatives.
C'est une densité, en même temps, c'est une simplicité. C'est-à-dire que, bon, il y a quelques années, 5 ou 6 ans, j'ai fait une grande exposition avec Liu Fan, il a trouvé ça formidable. Il voulait faire une fondation à New York, puis finalement, moi, il a ressenti le lieu, il a dit « je veux aller là-bas ». Donc, nous l'avons accueilli à bras ouverts, il a trouvé un espace formidable, et voilà.
Alors, il faut que vous compreniez, chers éditeurs, que c'est un personnage considérable, c'est quelqu'un qui est très lié à la France, qui a vécu une trentaine d'années, mais qui a été un des fondateurs d'un des plus grands mouvements de l'art japonais qui s'appelle Monoha. Hein, lui-même est coréen, mais il a beaucoup... Il vit au Japon. Il est né à un moment où le Japon dominait la Corée, si je puis dire. Et il a été l'inspirateur et le philosophe un petit peu de ce mouvement Monoha qui s'appelle, ça veut dire la leçon des choses. Et c'est un mouvement déterminant qui est un petit peu un équivalent de Support Surface et de l'Arte Povera, je pense. On pourrait dire que c'est un petit peu la même sensibilité. Vous pensez que ça va apparaître quand, la Fondation Liu Fan ? Vous donnez quoi, 2 ans, 2-3 ans ?
Ah non, pas du tout. Disons, au printemps de l'année prochaine, ça sera fait. Dans un an d'ici, la Fondation sera terminée.
Parce que vous insistez beaucoup sur le caractère, sur la nature humaine, au fond, de ces rassemblements, sur le fait que tout ça se fait assez naturellement. Mais en même temps, c'est en Europe du Sud, ou en tout cas au sud de la France, Arles est en train de devenir un endroit extraordinairement intense. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète, qui vous fait plaisir, qui crée un déséquilibre ?
Moi, je ne vois pas de déséquilibre à avoir une vie culturelle. Ce qui est important, c'est que la vie irrigue le territoire et pas l'inverse. On n'est pas en train de plaquer sur Arles quelque chose qui ne serait pas issu d'Arles, mais là, c'est vraiment... Mais si vous voulez, on se fait beaucoup d'illusions sur les choses. Tout à coup, on met la presse et la communication parasite d'une certaine manière, beaucoup plus que l'image que de la réalité. La réalité, elle est simple. Il y a des gens qui ont envie de venir là, ils s'y installent, ils collaborent, et il y a des gens qui ont envie de créer ici, et ils le font. Enfin, il faut, avec modestie, remettre les pendules à l'heure. On ne va pas non plus considérer qu'on est le nombril du monde. C'est vrai qu'il y a eu Jules César, c'est vrai qu'il y a eu Constantin, c'est vrai qu'il y a eu Louis XIV. Tous ces gens-là ont contribué à faire que la ville existait. Et il y a une grande histoire. Et quand il y a une histoire et qu'en plus il y a une géographie, c'est pas étonnant qu'il y ait aussi une vie culturelle. Et surtout, il y a eu Mistral quand même. C'est ancré dans un territoire, la culture ici.
C'est Frédéric Mistral dont vous parlez, qui a été prix Nobel de littérature et qui a été celui qui a... comment dirais-je, relever en quelque sorte la langue provençale.
Voilà. Donc si vous voulez, c'est une tradition. Et il n'y a pas de raison que dans un territoire comme celui-ci, il n'y ait pas une tradition culturelle. Enfin, je veux dire, ça fait quand même... Je mets civilisé entre guillemets, parce que nous avons fait beaucoup de monstruosités au nom de la civilisation. Mais disons, dans nos propres territoires, où on a fait aussi des gros ravages, la vie culturelle, je dirais la création, et c'est ça qui est important, c'est-à-dire les musiciens, les plasticiens, les écrivains... Ben, ils sont là, ils produisent, c'est le génie humain, ça.
Merci infiniment, Jean-Paul Capitani.
Merci.
Bon, mais nous sommes rue du Séminaire, à quelques mètres de la Fondation Van Gogh, juste en face des bureaux des Rencontres d'Arles. Et là, il y a l'atelier de Rive Schumacher.
Et bonjour.
Salut Rive, comment vas-tu?
Très bien, très bien.
Ravi de te voir.
Rentrez. Bienvenue.
Merci. Au milieu de tes œuvres, c'est parfait.
Yeah, exact.
À côté de Mireille Mathieu, superbe, tramée par toi, avec combien de pochettes de disques?
Ici, il y a 36 pochettes qui sont découpées dans des petits pixels. Peut-être il y a 60 000 pixels, quelque chose comme ça.
Et cette Mireille Mathieu qui t'a accompagnée pendant des mois, pendant des années presque.
Oui, ça fait 3 ans maintenant. Elle m'a bien captivé. Sur son image.
Et avec son image, tu as continué à faire un travail qui semble constant dans ton univers, c'est trouver des rythmes du monde pour travailler à la fois dans le son et à la fois dans l'image.
Tout à fait. Des images, ça vibre. Il y a des répétitions d'informations. Alors, comme dans la musique, la répétition d'un rythme, la répétition d'une progression des accords, il y a quelque chose de très rythmé dans ces images.
Ce rythme, tu t'en sers pour faire aussi une création sonore, puisque tu es aussi un musicien, un créateur sonore d'une musique très minimale, très rythmique, que tu fais, si j'ai bien compris, à partir de micro-sillons que tu graves physiquement, comme ça, avec un cutter, j'imagine, et auquel tu donnes un rythme très mathématique.
Tout à fait, tout à fait. J'utilise des disques en vinyle, des 45 tours, et sur le dernier sillon, j'applique des algorithmes mathématiques. Je fais cette nouvelle musique que j'appelle Sonic Braille.
Sonic Braille parce qu'on peut toucher.
Tout à fait. Et pour le doigt de le tourne-disque ou l'aiguille, on peut dire, ça traduit cette relief, cette surface en son, en tonalité.
Et c'est une musique très expérimentale. Alors, je pense qu'on va en faire le son de l'émission. On va t'écouter.
Great, super.
Vous êtes arrivé il y a une dizaine d'années à Arles, vous veniez de Miami, vous êtes un artiste américain. Pourquoi est-ce qu'on s'installe à Arles et est-ce que la transformation que l'on ressent de cette ville a une influence et un impact sur votre activité?
C'est une très bonne question. En fait, je pense que quelque part, c'est le Rhône qui m'a amené ici. Il y a ma femme qui est marseillaise qui m'a amené dans la Camargue. Et tout de suite, on a suivi le Rhône jusqu'ici. Et ici, j'ai senti une énergie très forte, presque comme une gravité qui m'a attiré. Et le Rhône a une influence sur mon travail parce que je travaille souvent dans la récupération. Je retrouve, par exemple, cette gaffe de cette sculpture qui est là, avec la spirale qui va autour, où j'ai trouvé cette bassin de cheval qu'on retrouve dans cette masque. Si on va un petit peu plus loin, le Rhône m'a amené Mireille Mathieu quelque part, qui est d'Avignon, qui est juste 40 minutes d'ici.
Est-ce que la transformation de la ville, les nouvelles institutions, les musées, le fait que beaucoup d'artistes contemporains passent, des grands critiques internationaux, est une raison de plus pour vous de rester et de vous installer ici?
Je pense que sans prétention, comme un artiste, j'ai un rôle à jouer dans l'avenir. C'est mon propre rôle, assez petit, mais je pense que oui, j'ai cette responsabilité quoi que soit qui passe autour de moi, moi je me suis investi dans cette ville. J'ai signé un bail en 10 ans, je peux rester 10 ans ici. Et maintenant que je suis là depuis 10 ans, je me suis dit que je peux rester facilement 10 ans de plus. J'ai ma famille, j'ai ma vie quotidienne, mes amis. Je pense que c'est une chance énorme de voir toutes ces institutions, tous ces artistes qui passent par ici. Mais c'est pas ce qui détermine ma présence ici.
Merci, Yves. Bonjour, Mélanie Bellu.
Bonjour.
Comment va votre galerie? Parce qu'il y a 10 ans, vous avez créé un espace d'art contemporain expérimental, hein, Lost Art Contemporain. Et puis, c'est devenu une galerie qui représente des artistes très différents, comme Brandon Opalka, ou Muriel Tout-le-Monde, ou Schumacher, d'ailleurs. Comment va-t-elle, cette galerie?
On évolue, voilà, on essaye d'avancer et de continuer de faire les choses du mieux qu'on peut. Donc, effectivement, on est en train de changer d'endroit. On était dans une petite rue arlésienne et on se rapproche d'une nouvelle dynamique.
Alors la nouvelle dynamique, c'est la Fondation Louma, vous vous installez juste à côté. Est-ce que la transformation de la ville, est-ce que les succès croissants, par exemple des rencontres d'Arles, est-ce que le développement de nouveaux musées annoncés comme la Fondation Liufan, est-ce que la venue d'artistes, de critiques d'art, de collectionneurs, j'imagine, a une influence et va changer un petit peu votre activité?
Alors la changer, non, parce que nous on continuera de faire ce qu'on fait. Par contre, c'est une des raisons pour laquelle on est venu s'installer à Arles. C'est-à-dire, il y a 10 ans, quand j'ai décidé, qu'on a décidé de créer Lost Art Contemporain, c'était vraiment en regard de ce qui allait se passer. Il y avait effectivement les rencontres qui étaient implantées, donc ça, c'était pas une nouveauté. Il y avait énormément de galeries autour de la photographie, mais il y avait très peu de, voire pas, de galeries d'art contemporain. Donc c'était excitant, il y a 10 ans, de se mettre dans un endroit où on sentait que c'était en train d'arriver. Et en même temps, où tout restait à faire.
Mais ma question, ce serait, au fond, est-ce que vous croyez que, par rapport à ce qui peut se passer en France et en Europe du Sud, Arles est en train de réussir à devenir incontournable?
Incontournable. J'ai du mal à répondre à ça parce que pour moi, on est des espèces d'espaces de résistance qui sont à leur échelle. Et le fait d'être à Arles, il y a une lumière qui est mise dessus. Voilà. Ça, c'est bien, ça, c'est positif. Ouais. Mais ces espaces, à l'identique de Lost, il y en a plein, et heureusement, voilà, parce qu'à l'époque actuelle, on a besoin d'avoir des lieux qui proposent des choses qui ne sont pas forcément dans le rythme attendu, dans la rapidité, à l'échelle attendue, avec une économie derrière, forcément marchande. Voilà. Donc tous ces lieux, en fait, qui existent et qui doivent exister pour résister à tout ce qu'on connaît.
À quoi résistez-vous, Mélanie?
Quand je dis résister, en fait, c'est la difficulté pour moi de la galerie, c'est d'offrir aux artistes le maximum de liberté. Je suis plutôt artiste, vidéaste. À un moment donné, le jeu de ce lieu est devenu quelque chose de plus sérieux, qui est devenu une galerie. Mais l'ambition que j'ai aujourd'hui, si je me positionne comme galerie, c'est d'offrir à mes artistes, aux artistes de la galerie, de leur offrir le plus de liberté possible. Voilà. Et c'est ce à quoi j'œuvre. Donc c'est de trouver des modèles économiques qui permettent à l'artiste de rester libre. Voilà, c'est ça mon ambition.
Merci Mélanie Bellu. Merci beaucoup. Bonjour Sam Sourdier, comment allez-vous?
Bonjour Jean de Loisy, très bien de vous recevoir à Arles, puisque c'est presque nous qui vous recevons.
Là, vous me recevez et je suis ravi d'être avec vous. Vous êtes le directeur des Rencontres d'Arles depuis quelques années. Depuis combien de temps?
Ça sera on parle en édition quand on s'occupe d'un festival. Ça sera la 6e édition cet été.
Que vous faites? Mais en fait, les Rencontres d'Arles ont 51 ans ou 21 ans ou quel âge?
Eh oui, 51 ans. Né en 1970, on en célébrait dignement les 50 ans l'année dernière. Une aventure assez exceptionnelle.
Comment ça avait commencé?
Par trois personnes, Lucien Clerc, fameux photographe arlésien, Jean-Maurice Rouquette, fameux responsable du patrimoine arlésien, et puis il fallait un peu d'esprit parisianisme pour accompagner cette aventure. C'est Michel Tournier qui s'y est collé à l'époque, qui était fasciné par la photographie, qui n'avait pas encore reçu son prix Goncourt. On oublie parfois qu'il animait à feu l'ORTF, une émission de télé, La Chambre Noire, consacrée consacré à des grands inconnus, Brassailles, Man Ray, 52 minutes, co-animé à tour de rôle entre lui et Plessis, le rédacteur en chef de Point de vue et Images du Monde. En tous les cas, ces trois gays du rond, à un moment, décident que la photographie n'est pas assez montrée et qu'il faut créer un festival pour qu'elle le soit. C'est comme ça, les débuts des rencontres.
Vous qui avez eu, avant d'être directeur des rencontres d'art, une carrière internationale, vous avez dirigé des musées, vous étiez dès que vous avez eu 20 ans, vous étiez attentif au monde de la photographie. Les rencontres d'art avaient déjà, avant votre arrivée, une personnalité presque unique dans le monde des festivals de photographie ?
Absolument unique. Moi, j'avais deux balises comme ça, deux phares quand j'ai commencé. C'était le musée de l'Élysée, premier musée de la photographie en Europe.
Vous êtes devenu
Europe.
Directeur ?
Ah oui, après, mais à l'époque, je n'osais même pas en rêver. J'espérais pouvoir y aller un jour, pouvoir me payer un billet de train pour aller jusqu'à Lausanne. Et les rencontres d'Arles, le festival, le moment de l'été où le monde international de la photographie se réunissait dans la petite ville. Les rencontres ont toujours réussi, oui, à être un peu disruptifs autour de la photographie, à s'inventer par rupture en quelque sorte. La première rupture, c'était de montrer de la photographie, à une époque où personne n'en montre. Hein, en 70, la photo est nulle part.
Juste au musée Réattu, curieusement, à Arles, je pense que dès les années 60, ils ont commencé à acheter de la photographie.
1965, oui, la collection commence à ce moment-là. Grâce à Jean-Maurice Rouquette, dont on parlait à l'instant, qui est le conservateur du musée Réattu, et de Lucien Clergue. Donc on a déjà ce binôme qui décide d'ouvrir une branche photo au sein de la collection de ce musée. Alors, les experts diront qu'à la Bibliothèque nationale, il y avait déjà de la photographie, notamment par le dépôt légal, mais un musée en province qui décide d'ouvrir une collection photo... Et la manière dont ils le font est géniale. Ils prennent la liste des 25 grands photographes et ils leur envoient une lettre pour leur demander d'offrir des photos au musée.
Et ça a marché.
Et ça a marché, peut-être pas sur les 25, mais ils ont bien eu la moitié. Et à peu près à la même époque, une vingtaine de tirages des années 30 d'Edward Weston, le grand maître californien de la photographie, rentreront comme ça dans les collections de Réattu.
Et alors, il se passe en ce moment quelque chose de singulier. C'est votre présence, mais la transformation aussi de la ville fait que aujourd'hui il y a une multiplication des visiteurs des rencontres d'Arles qui fait que Arles devient de plus en plus un lieu d'une intensité très étrange pour la création.
Alors oui, il y a ce qui se passe autour des rencontres d'Arles, et ça c'est assez magique. Les artistes répondent très favorablement quand on leur propose de faire une exposition à Arles, parce que les lieux sont tellement inattendus. On a une vingtaine de lieux dans la ville, on s'étale sur à peu près 25 000 mètres carrés, on a des églises, des cloîtres, des sites industriels désaffectés, et cette idée de sortir de la white box... Je pense que pour les artistes, c'est une espèce de respiration auquel, avec une gourmandise pas dissimulée, ils répondent favorablement. Ça, c'est pour les rencontres. Après, il se passe en ce moment un moment de grâce, un moment assez magique dans cette ville de 55 000 habitants qui compte une dizaine d'acteurs culturels de premier ordre. Et il y a un modèle ou la tentative de la construction d'un modèle culturel qui s'invente. En tous les cas, c'est ce que j'ai perçu, moi, il y a à peu près 5 ans, quand j'ai quitté le musée de l'Élysée pour me rendre à Arles. Et c'est bien cette envie de participer à cette décennie qui s'annonçait un peu incroyable, sur lequel, dans ce domaine, on pouvait tenter d'inventer des choses.
Alors, une dernière question. Arles, vous en parliez avec les rencontres, la Fondation Luma, le Méjean et beaucoup d'autres structures en devenir, ou bien qui sont déjà là, comme la Fondation Van Gogh et d'autres. Un poids culturel considérable dans la région. Est-ce que ce sont des structures qui s'épaulent les unes les autres, qui cèdent? Est-ce que ça crée un déséquilibre? Est-ce que c'est compliqué?
Oui, c'est toujours compliqué, mais c'est bien de cette complication, de ces déséquilibres créés qu'on invente des nouveaux équilibres. L'arrivée de nouveaux acteurs culturels a bousculé les lignes, mais c'est en étant bousculé qu'on se réinvente aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que à Arles, en ce moment, se met en place une dynamique collective, faite de concurrence réciproque, mais faite aussi d'un certain nombre de collaborations et d'échanges.
Et de passions partagées, au fond.
Et de passions partagées, puisqu'on défend la même chose, les artistes et la création. Mais ça crée une émulation qui est assez unique. J'ai rarement vu d'autres lieux où on avait autant d'émulation collective, et c'est plutôt agréable.
Merci Sam Sourzé, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et maintenant, nous voilà dans la maison du grand photographe François Allard, qui d'ailleurs vient de publier un livre qui s'appelle Volume 2, l'intime photographié chez Actes Sud, et qui est installé depuis une trentaine d'années dans une des plus belles maisons d'Arles, et qui est donc un témoin extrêmement important des transformations qui ont eu lieu du point de vue de l'art, de la culture, dans cette ville. Est-ce que le mot transformation est juste, François Allard ?
Le mot transformation est faible, plutôt. C'est-à-dire d'une petite ville calme et provinciale, héritée du 19e, tout d'un coup, on voit apparaître une ville à l'aube du 21e siècle et en allant vers le 22e. Voilà. Donc en fait, oui, énormément de changements. Et justement, un changement dans sa nature et non pas dans sa taille. Parce que ce que j'aime, c'est que Arles est toujours une ville à la taille romaine. C'est-à-dire que le plan, la taille de la ville n'a pas changé depuis Constantin ou très peu. Et donc, le changement s'opère dans la nature de la ville, dans la fonction de la ville, et non pas dans sa forme. Voilà, c'est ça que je trouve intéressant. C'est plutôt un changement de mentalité qui s'opère.
Mais cette transformation, c'est une transformation que vous devez aimer, puisque c'est une transformation par les artistes. C'est au fond une ville qui s'est ouverte de façon incroyable à l'art d'aujourd'hui.
Ça s'est fait petit à petit, j'ai l'impression. Ça s'est fait avec des acteurs différents. Une transformation profonde qui devient presque une ville pour l'art et les artistes, en fait. Et donc, écoute, je suis ravi que cette ville ait pris ce tournant, étant donné que je ne m'y attendais pas du tout quand je m'y suis installé.
Vous qui avez consacré votre œuvre à la vie intérieure, au fond, la vie intérieure des grands artistes, vous avez photographié Twombly, Hugo Rondinone, Avedon, Morandi, tous les détails des espaces intérieurs de ces artistes, comme si cela était les métaphores de leur intériorité réelle, leur intériorité spirituelle, on peut dire. Et vous n'êtes pas troublé, dérangé par ce va-et-vient d'artistes du monde entier qui s'installent ici ?
Non, pas du tout. Je trouve ça vraiment intéressant. Le fait d'être proche de Maya me permet aussi, grâce à elle, d'en rencontrer un certain nombre.
Maya Hoffman.
Oui, Maya Hoffman. Donc, c'est vrai que, quelquefois, c'est formidable, au lieu de parcourir le monde à la recherche d'artistes, de les photographier. Il se trouve que maintenant, ils viennent à Arles, et donc c'est plus facile de les rencontrer, parce que c'est vrai que maintenant, Arles agit, j'allais dire, comme un aimant, comme une curiosité. Les gens se demandent pourquoi venir ici, qu'est-ce qui a attiré les autres. Donc il y a une attirance des artistes, et surtout de beaucoup d'artistes étrangers, à venir découvrir ce qui fait cette spécificité d'une petite cité qui a amené, j'espère, à rayonner grandement.
Merci François Allard, merci beaucoup. Mais c'est la première fois que je te vois dans ton nouvel établissement.
Où est-ce que vous voulez un endroit ?
Ouais, très bien.
Ah bah super. On y va. Attention, les portes sont tellement lourdes que je les tiens. Alors.
C'est un énorme changement dans ta vie, je veux dire, après le jeu de paume, après toute responsabilité, avant de commissaire international, de conseiller, etc.
C'est un changement, mais je pense que c'est quelque chose de naturel. Pour moi, quand même, je me construis cette histoire. Chacun s'est construit son storytelling de soi-même. Et je me suis dit, après 12 ans au Jeu Pomme, à la direction du Jeu Pomme, où j'ai fait, je ne sais pas, 100, 200 expositions, 200 catalogues.
Énorme.
Voilà, 15 ans à la Caixa, à la Fondation La Caixa en Espagne, aussi pareil, voilà. En fait, ce qui est intéressant, c'est que j'ai commencé mon contact avec la photographie en école de photographie à Barcelone. Et c'est là, quand j'avais 20 ans, que j'ai commencé à travailler pour me payer mes études. Et là, je pense que je finis ma carrière aussi dans une école, bah, pas comme secrétaire qui fait les inscriptions, mais plutôt comme directrice. Bah, je pense que c'est bah, comme une sorte de justice poétique.
Et puis, tu te retrouves dans une ville qui est assez incroyable, dans un moment de transformation très intense de la ville. Est-ce que c'est un aspect qui t'a attiré?
Écoute, Arles, c'est comme un sort de lieu. Tu sais, quand j'habitais à Barcelone, moi, j'y venais presque chaque année aux rencontres. C'était un moment de retrouver les copains, les collègues, d'échanger, tout ça. Et pour moi, c'était une ville d'été et de sociabilité. C'est ça que je viens de découvrir ces deux, trois dernières années. C'est que elle peut être aussi une ville pleinement, je dirais, joyeuse de solitude. J'adore aussi la place du Forum vide. Tu vois ça? Je traverse chaque jour cette place qui est complètement vide. Ça me donne une sorte de paix, tu vois. C'est magnifique. Moi, je trouve ce lieu magnifique. Et en plus, il y a pas mal de choses qui se passent. C'est pas Paris.
Ça devient quand même une capitale culturelle pour le Sud, entre l'Espagne, l'Italie et...
En fait, je pense qu'Arles, elle est en train de devenir un pôle culturel très important. Entre tous, on va le faire. Il y a la Fondation Van Gogh, il y a les rencontres, il y a la Fondation Luma, il y a plein d'autres activités, il y a les théâtres, il y a le cinéma, il y a Méjean, il y a tout. En fait, il y a tout pour vivre une vie émancipée culturellement, si on peut dire comme ça. Et aussi, on est pas mal connecté avec, avec Marseille, avec Nîmes, avec Avignon, avec Aix, bien sûr avec Paris. Pourquoi pas? Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que je pense que cette culture, elle devient très proche. Quand on est dans une grande ville comme Paris ou comme Madrid ou comme Barcelone, n'importe, c'est difficile de partager. Ici, voilà, avec les voisins, avec les gens de la boucherie ou de la boulangerie, ils me demandent alors qu'est-ce qu'ils font vos étudiants? Est-ce que vous avez vu l'expo à la Fondation Van Gogh? Qu'est-ce qui se passe à Luma? C'est quelque chose qui fait partie de la vie quotidienne des gens.
Autour de l'école, finalement, se crée un réseau d'actions et aussi des personnes qui viennent. Je viens de croiser dans le couloir Anne Cartier-Bresson qui vient faire une conférence. Donc ça fait partie de ce biotope comme ça qui se développe.
Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, les étudiants s'organisent. Ce n'est pas une école énorme. On a 100 étudiants, 75 de formation initiale. On a des doctorants, on a des résidents. Et il y a aussi comme un sort d'énergie entre eux qui est très intéressant. Et effectivement, ils s'organisent à l'extérieur aussi de l'école. Et ils amènent aussi l'extérieur à l'école. Avec ce nouveau bâtiment où on se trouve maintenant, qui a 5000 mètres carrés quand même.
C'est de quel architecte?
C'est Marc Barani qui a fait cet beau bâtiment qu'on est en train de commencer à habiter parce qu'il fait 3 semaines qu'on est là. Et on découvre ensemble, et ça c'est aussi très important, comment on va utiliser tous ces espaces. Ces espaces qui sont larges, qui sont généreux, qui donnent envie aussi de les posséder de façon complètement, parfois différente à ce que Marc Barani avait imaginé. Mais je pense qu'il est content aussi de savoir qu'on est en train de l'habiter, d'y vivre et de trouver aussi notre lien avec les enseignants et les étudiants et tout ça. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que cette école, elle est transparente. Marc Barani, il a voulu faire cette sorte de volume qui est transparent vers la ville, transparent vers l'avenue, Victor Hugo. Et cette transparence, ça nous inspire aussi vis-à-vis de ce qu'on a commencé à faire avec mes équipes et les étudiants et les enseignants, c'est-à-dire ouvrir l'école à la ville. Ça, c'est très important.
Merci Marta Gili, merci beaucoup.
Merci à vous.
Bonjour Moustapha Bouayati, vous êtes le responsable, directeur exécutif de la Fondation Luma et qui est en train de transformer complètement notre idée de ce qu'est un espace culturel, qui est en train de transformer complètement un territoire et qui est en train d'être inspirant pour beaucoup de passionnés d'art. Qu'est-ce qui se passe? Ça a commencé il y a combien de temps?
Ça a commencé il y a très longtemps. En fait, ça s'est formalisé en 2008. L'idée a probablement préexisté, puisque Maya Hoffman, qui porte ce projet depuis le début, réfléchissait avec Franck Guéry à l'époque qu'elle avait rencontré, à ce que pourrait être le centre culturel, le lieu de création du 21e siècle.
J'ai l'impression que pour penser ce que serait une institution différente qui ne ressemble à aucune autre, elle a choisi de s'entourer d'artistes.
Absolument. Et on travaille avec un groupe de personnes qui accompagnent le projet depuis le tout début. Ce sont des gens d'ailleurs qui étaient jeunes à l'époque, hein, ils ont pas mal évolué. Hans-Ulrich Obrist, Béatrix Rouff.
Ce sont les grands critiques d'art internationaux, voilà, Tom Eccles, les regardeurs.
Exactement, hein. Tom Eccles qui dirige une école. Et elle a intégré même deux artistes, Philippe Pariano et Liam Gillick.
En fait, ce qui est différent, c'est que le projet s'est construit pas seulement comme un lieu d'art, mais comme un archipel avec des réseaux, des antennes, une conception du territoire.
Alors, c'était peut-être pas aussi évident, en fait, au moment début, où il a été conçu. Rien que le fait d'avoir ce groupe de personnes qui, pour mener la réflexion avec nous, que Maya, en fait, a assis autour de la table, face à Franck Guéry, qui, à l'époque...
Alors, Franck Guéry, a construit la tour, le bâtiment principal donc, de l'ensemble, et qui va en devenir le symbole. Mais il y a beaucoup d'autres choses que cette tour, parce que cette tour va avoir, des fonctions d'exposition et autres, mais autour, il y a un jardin fait par un très grand paysagiste.
Basmet, absolument, et il y a également un ensemble de bâtiments du patrimoine industriel du PLM à l'époque, puisque c'était le milieu du 19e siècle, la SNCF depuis, et qui ont été rénovés aussi. Et ce bâtiment, effectivement, qui est assez iconique, hein, parce que je crois que le premier choix de Maya, après s'être entouré de ce groupe de personnes, et le premier acte presque militant, je vais dire, est de venir à Arles.
Alors, mais elle ne vient pas à Arles par hasard. Elle a une histoire familiale, hein, et en particulier Luc Hoffmann, son père, qui a été un acteur décisif pour l'ensemble du paysage arlésien, c'est-à-dire pour toute la Camargue.
Avant la fondation du WWF, qui est au début des années 60, il avait la conscience, dès son arrivée, que c'était un écosystème qui était vraiment particulier, le delta du Rhône, qu'il fallait absolument préserver. Et donc il a fondé la Tour du Valar en 1953, où il a réuni des scientifiques, des experts, que ce soit de l'eau, des insectes, des plantes, etc., pour venir déconstruire cet écosystème et mieux le comprendre, pour mieux le protéger et le promouvoir.
Alors le mot écosystème est important dans la description de ce qu'est la Fondation Luma, parce que c'est effectivement des lieux d'exposition, des archives, des espaces de recherche, des laboratoires. Et quoi d'autre? C'est quoi les éléments de la Fondation Luma? Et aussi des hôtels, des restaurants, comment est-ce qu'on peut décrire cet ensemble?
Oui, écosystème, je pense, est le bon mot. Et c'est vrai qu'on se pense assez de manière organique, ne serait-ce que dans la façon dont le projet s'est constitué. Hein. On a commencé en assemblant des éléments les uns avec les autres. Je dirais même en plantant des petites graines qu'on a regardées pousser et qu'on a accompagnées d'une certaine manière. Je reviens un peu à la référence à l'archipel de tout à l'heure, parce que c'est vrai que quand on a commencé, nous, notre réflexion, en 2008, on était aussi très marqué par les écrits d'Édouard Glissant.
D'où le mot archipel, évidemment.
Exactement. Ouais, ouais. Voilà, c'est
et qui la pensée archipélique.
Exactement, et qui l'opposait à la pensée continentale, qui est monolithique, bien sûr d'elle-même, monobloc. Et ici, en fait, on avait quelque chose au parc des ateliers où on a plusieurs bâtiments qui sont éparpillés et séparés les uns des autres. Et c'est vrai que ce qu'on a conçu, ce sont des espaces, des bâtiments qui sont très très différents les uns des autres, qui ont tous des caractéristiques, des qualités, des typologies, des équipements très distincts. Et ce qui permet de les penser indépendamment, c'est de penser les programmes qui vont les animer et les activer, indépendamment ou en combinaison les uns avec les autres. Et en fait, c'est dans ce sens-là aussi que la référence au bâtiment qu'on a conçu avec Franck Guéry, qui va accueillir un certain nombre d'activités, peut vivre indépendamment, mais on peut aussi concevoir, c'est un petit peu le cerveau dans lequel les choses vont se passer, pour produire des événements ou des actions, des expositions, etc., etc., dans les différents lieux.
Pourquoi est-ce que c'est la responsabilité d'un centre d'art de s'intéresser aussi à la façon de vivre dans la région et en Arles avec des équipements complémentaires, si je puis dire, hôtels, restaurants et autres?
On est à Arles, voilà, on est dans une petite et moyenne ville. On est périphérique en quelque sorte, hein. On est vraiment loin des grandes métropoles. Et nous, on a fait le choix de venir à Arles et de s'implanter ici. Aussi parce que ce sont des conditions qui sont différentes, tout simplement pour des questions d'échelle. On est vraiment à taille humaine. Pour des questions de rapport au temps, le temps s'écoule et défile différemment, de rapport à la nature. Et en fait, tout ça marque et influence la manière dont on aborde les sujets et dont on les traite.
Alors par exemple, quand on fait un hôtel comme l'Arlatan, c'est un hôtel fait avec un artiste.
Absolument, et pour répondre à la question, on est une destination. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un bassin de population spontané qui, tout d'un coup, à Paris, on fait une exposition au Centre Pompidou ou ailleurs, et il y a 140, 200, 300 000 visiteurs spontanément qui peuvent venir visiter. Ici, c'est pas aussi spontané. C'est une destination, c'est quelque chose vers lequel on se projette. Et c'est une expérience, en gros, qui
donc,
commence...
Donc, quand on fait un hôtel avec India Madhavi, par exemple, on le traite comme une expérience.
Absolument.
Ça fait partie de votre métier, d'une certaine façon.
Oui.
Et, ou de votre responsabilité.
Et le rapport à l'art et à la culture ne commence pas au moment où on pousse les portes d'une exposition. C'est quelque chose qui commence avant et qui se poursuit bien après. Et donc, nous, on a un contexte dans lequel tout cela peut s'exprimer et qu'on accompagne.
C'est pas mal comme responsabilité de se dire... on participe à la transformation d'un territoire qui déjà était très riche, hein, parce que on est installé sur un des hauts lieux de la Romanité, on est sur l'ancien cimetière des Aliscans, il y a autour de vous des chapelles médiévales sublimes, Saint-Césaire et autres.
Je veux dire, c'est unique.
Une dernière question, Mustapha. La population donc, accueille cette aventure avec stupéfaction, curiosité, inquiétude?
C'est un peu de tout ça, c'est un peu tout mélangé. C'est quelque chose qui a évolué même avec le temps. Au début, c'était aussi dans l'interrogation. Soyons clairs, on est dans une ville qui a eu un riche passé industriel, qui s'est désindustrialisée comme la majorité des villes de cette taille, qui aurait probablement souhaité et préféré avoir une usine. Et nous, on arrive là avec un projet culturel, et non pas un projet culturel conventionnel, c'est-à-dire un musée, on va accrocher des Picasso et on ouvre les portes et on vend des billets, mais un endroit où on pense réinventer, ou repenser en tout cas, ce qu'est un centre de création, un centre culturel, parce qu'on est convaincu que la culture n'est plus le sanctuaire ou les musées avec des objets tels que les gens les connaissent. C'est au contraire le lieu de la transversalité. C'est le lieu où les gens peuvent se retrouver et travailler ensemble. Et voilà, et nous on a cette conviction, et c'est vrai qu'on traite de sujets où parfois ça interroge, les gens se disent mais pourquoi est-ce qu'ils parlent d'économie sociale et solidaire, pourquoi est-ce qu'ils parlent de tourisme, pourquoi est-ce qu'ils s'attaquent à tous ces sujets. Non, en fait on les aborde parce que tout le monde doit les aborder.
Et ça fait partie de la culture et de la réinvention nécessaire.
Exactement.
Merci beaucoup Mustapha pour cette description de l'archipel, et dans l'archipel il y a un élément extraordinairement important, c'est le laboratoire de création qui montre l'intérêt de la Fondation Luma pour l'ensemble du territoire, et j'ai la chance de recevoir Caroline Bianco, vous êtes la co-responsable, co-directrice, je ne sais pas comment on dit, de ce laboratoire.
Exactement.
Vous savez que je suis arrivé la première fois, il y a un an et demi, dans la région, visiter le laboratoire de création et de design de la Fondation Luma, et je me suis dit, il se pense là quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs, ils sont en avance de 50 ans. Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que c'est trouver les matériaux qui appartiennent à un territoire, c'est-à-dire la grande région entre les Alpilles, la Camargue, la Croix et tout ça, trouver des matières, leur donner des formes avec les plus grands designers d'aujourd'hui et essayer de trouver de nouvelles filières économiques. Est-ce que c'est quelque chose qui ressemble à ça?
Alors, ça pourrait ressembler à ça, mis à part une donnée qui manque, c'est l'humain.
Ouais.
À l'atelier, on observe des paysages, on essaie de les comprendre, on en observe la matière qui les crée, mais aussi les hommes, les cultures, les savoir-faire, les interactions, etc. Et c'est l'ensemble, en fait, c'est ce regroupement entre ces deux éléments qui font pour nous projet.
Vous voulez dire que vous êtes à la fois un conservatoire de gestes traditionnels et un laboratoire de matériaux et de pensées nouvelles?
On essaye, en tout cas, d'appréhender tout ce qui se passe sur un territoire pour ensuite essayer de voir de quelle manière on pourrait imaginer ce que pourrait être notre futur sur la base.
Faut que vous nous donniez des exemples.
Alors, des exemples. Aujourd'hui, on travaille sur plusieurs matériaux. Le sel, le tournesol, le riz, etc. À chaque fois, ces matériaux sont issus d'une agriculture locale ou d'un savoir-faire local.
Est-ce que vous pouvez bien faire avec du sel?
Avec du sel, on peut faire beaucoup de choses. Le sel, quand on l'analyse un peu plus, on s'aperçoit que c'est une matière incroyable qui ne prend jamais feu, qui est en fait une culture, qui a une matière en fait qui grossit perpétuellement.
Mais vous faites quoi, des tables? Qu'est-ce qu'on fait en design avec du sel?
Avec du sel, on peut faire des éléments de construction, des parements, on peut faire des objets.
Des meubles?
Peut-être. Peut-être des choses qui ne dureraient pas forcément longtemps, mais aujourd'hui, on questionne aussi cette idée en fait, de la durabilité. Avec, par exemple, le tournesol, qui est un autre exemple. Là, l'idée, c'est de travailler sur une matière qui, aujourd'hui, n'est pas utilisée. Donc, il y a toute une partie, aujourd'hui, du tournesol qui va vers l'huilerie. mais il y a aussi toute une partie qui reste au champ et qui n'aurait pas forcément vocation d'y rester. Puisque...
Donc vous allez faire des matières isolantes, des choses
donc,
comme ça.
Donc du coup, il peut y avoir des matières isolantes, mais il peut y avoir aussi des matières qui utilisent aujourd'hui des vrais procédés technologiques.
Les algues ?
Les algues, on utilise les algues, celles qui sont des déchets pour le territoire. On les utilise pour deux choses. Une première partie qui est leur coloration. Et la deuxième partie qui est en fait leur toute la partie moléculaire en fait de la matière qu'elles peuvent représenter et qui nous aide aujourd'hui à créer des biopolymères.
Une dernière question. Vous pensez que les conséquences de votre exploration vont être lisibles ou visibles dans l'économie générale du territoire dans combien de temps ?
Je crois qu'aujourd'hui, les entreprises se posent toute la question de comment faire différemment. Et je crois que sur le territoire, c'est ce qu'on essaye de faire à une échelle humaine, d'essayer de voir quels pourraient être les enjeux en fait, de ce territoire et comment, par le biais de certains projets, certaines recherches, certains travaux de nos designers, scientifiques et agriculteurs, on arriverait à développer un nouveau futur.
Merci Caroline Bianco, merci beaucoup. Il y a une fondation, prévisible peut-être, qui s'appelle la fondation Van Gogh. Et je suis avec Christine Taris, son administratrice. Bonjour Christine.
Bonjour Jean.
Depuis combien de temps existe cette fondation ?
Alors la fondation était à l'origine d'une association qui avait été créée par Yolande Clergue, dont la volonté en fait était de, dans les années 80, de réunir une collection d'œuvres faites par des artistes inspirés par Van Gogh. Et à l'origine, en fait, elle souhaitait exposer ses œuvres pour le centenaire de l'arrivée de Van Gogh à Arles, donc en 1988.
Et elle a rencontré Luc Hoffmann qui a essayé de
alors,
l'aider.
Alors voilà, Luc Hoffmann était déjà intéressé par le projet. Luc Hoffmann, effectivement, quand il était arrivé en Camargue au milieu du XXe siècle, s'était en fait étonné de l'absence d'œuvres de Van Gogh à Arles et d'un lieu de mémoire. Il avait lui-même, en fait...
J'ai interrogé Mustapha Bouayati, oui, qui m'a dit, au fond, il faut réconcilier les Arlésiens avec Van Gogh.
Tout à fait. Et c'est vrai que Luc Hoffmann avait grandi dans un milieu très impliqué dans l'art. Et il avait été très tôt sensibilisé. Cette absence de Van Gogh, pour lui, n'était pas supportable. Donc, dans les années... à la fin des années 2000, Yolande Clergue lui a demandé d'être président de cette association. Et sous son impulsion, l'association est devenue fondation en 2010.
J'ai l'impression aujourd'hui, oui, que la position de Bice Kouriguer, la directrice, oui, est de retrouver la pensée, l'attitude de Van Gogh, au fond, dans un dialogue avec l'art contemporain et peut-être à partir d'un certain nombre de valeurs politiques ou philosophiques qui
absolument
auraient été celles de Van Gogh.
Bice a à cœur de parler de Van Gogh, qui en fait était très proche des gens. La fondation est un lieu d'exposition temporaire et donc on a eu cette exposition La vie simple qui...
La vie simple, ça résume un peu la frugalité
absolument
à laquelle il aspirait.
Absolument,
quoi,
voilà. Van Gogh était, servait beaucoup les artisans, les paysans. Il était,
en ce moment, il y a quoi ?
Et en ce moment, il y a une exposition qui parle du travail, Ad Labora. Voilà.
Ça aussi, c'est parce que quand on voit la masse de travail de cette période incroyable qu'il a vécue entre Saint-Rémy et Arles, on sent qu'il y a un respect aussi pour le travailleur. Je me souviens des gravures de Millet qui collectionnait, de l'attention au travail des humbles, en fait.
Oui, ça nous permet aussi de parler de l'époque de Van Gogh, tout en la mettant en perspective.
Avec de grands artistes.
Avec de grands artistes.
Comment ça marche, la collaboration ou la rencontre ou l'association entre ce qui apparaît à Arles, comme la Fondation Luma ou d'autres, ou les rencontres, par exemple, et la Fondation Van Gogh?
Alors, la Fondation Luma est une fondation avec laquelle on travaille, puisqu'on a la même présidente, donc tout ce monde travaille en intelligence, bien sûr.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Cyril Boutade, merci de nous rejoindre. Vous êtes un personnage aux personnalités multiples, puisque vous avez été agent pour des artistes, fondateur de galeries, auteur récemment encore de livres. Le dernier, d'ailleurs, c'est assez intéressant, s'appelle « Quelle mouche l'a donc piqué ?»
Ça va se la piquer.
Ouais. Ça sort chez Flammarion, mais c'est la suite d'un ensemble de chroniques que vous aviez fait.
À la radio ici.
Qui s'appelle
3DFM. Et ces chroniques étaient en fait une espèce de mini biographie, genre, pour faire un peu caricatural, quelle mouche a piqué Soulage de faire des tableaux noirs, quelle mouche a piqué Yves Klein de faire le Bleu-Klein. Enfin, c'était un peu ça le rythme du...
Et ça sort donc chez Flammarion dans quelques jours, donc on va observer cela. Mais quelle mouche vous a piqué, Cyril Poutman, vous qui avez travaillé avec James Turrell, Fabrice Hibert, Kwan Yongping et des très grands artistes, de vous installer à Arles?
Parce que j'ai découvert cette ville pour des raisons familiales il y a 30 ans. Et c'est vrai que cette ville a un ADN, a une espèce de karma vraiment très particulier. C'est vraiment, il y a une chose très spéciale ici. Je pense que c'est lié à la Camargue aussi, qui est quand même un espèce de miracle naturel local. Et il y a énormément de gens extrêmement intéressants qui sont installés à Arles.
Vous avez l'impression que Arles, même dans son évolution, est une sorte de miracle culturel qui est en train de se construire?
Ah, on peut dire ça. La seule chose, c'est qu'il ne faudrait pas qu'elle soit victime d'une croissance trop rapide.
Il y a un risque?
Il y a toujours un risque, parce que il ne faudrait pas que ce soit cannibalisé par que d'énormes engins, si j'ose dire.
Mais il y a aussi des ateliers d'artistes, des associations, votre galerie et d'autres jeunes galeries qui sont là.
Tout à fait.
Ça équilibre, non?
Oui, ça équilibre.
C'est bien vécu par la population, cette transformation?
Ben, le problème, en fait, c'est la population. C'est-à-dire que la population ne se sent absolument pas concernée. Et je trouve, à mon goût, que toutes ces grosses institutions locales ne font pas grand-chose pour intéresser la population.
Merci Cyril Poutman.
Je vous en prie Jean, merci beaucoup.
Bon, je suis ravi de vous rencontrer, Grégoire Dablon, Margot Bonopéra, Julia Marchand. Formidable de vous avoir là. Vous représentez pour moi le goût et la possibilité d'une alternative dans une vie culturelle aussi intense, une alternative pour pouvoir créer des choses parfois plus discrètes, plus modestes, mais qui créent une sorte de vitalité, le suc même. Grégoire, vous êtes artiste ici, pourtant vous êtes normand, vous avez fait des études ici. Qu'est-ce que vous venez faire à Arles?
Écoutez, je suis diplômé de l'École nationale supérieure de la photographie de Arles, qui est dans cette ville depuis maintenant 40 ans. Et je suis, après mon diplôme, en mai dernier, je suis resté habiter ici parce que j'avais toutes les raisons d'y rester, en fait.
C'est la vie culturelle qui fait que vous êtes resté ici? C'est parce que vous trouvez qu'il y a des choses à créer, plus d'artistes, le passage, la transformation de la ville? Qu'est-ce qui fait qu'un jeune artiste décide de s'établir à Arles?
Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Je crois qu'il y a une vraie dynamique culturelle qui est en train d'éclore. Tout le monde le voit, tout le monde le sait. Il y a autant des grandes pointures, des grands investisseurs, et aussi des dynamiques beaucoup plus légères, petites, mais néanmoins aussi très intéressantes. Et puis, il y a aussi quelque chose qui n'est pas à prendre à la légère, c'est que le NSP permet à ses diplômés d'utiliser les locaux de l'école 3 ans après leur diplôme. Donc en fait, pour moi, c'est aussi le lieu et la ville où se situe mon atelier de travail. Donc c'est aussi pour ça que je suis resté.
Est-ce qu'il y a des initiatives auxquelles vous aimez vous associer dans ce qui se passe d'alternatif ou d'associatif dans la vie arlésienne?
Bah écoutez, on a Julia Marchand qui est là avec nous et effectivement...
Bonjour Julia, vous allez bien?
Très bien, et vous-même?
Et vous prenez des initiatives parce que vous avez une sorte de double vie, si je puis me permettre. Hein. Oui. Vous êtes à la fois curatrice à la Fondation Van Gogh à Arles, et puis vous avez une association qui lance des projets, une sorte de artist run space, on pourrait appeler ça comme ça?
Oui, ou curateur run space, mais ouais. Effectivement les artistes sont au centre, donc on peut l'appeler artist run space. Oui, je dors assez peu. Et Arles permet de déployer ce temps aussi personnel, hein, on peut dire ça quand on déploie autant d'énergie dans des projets hors fondation, puisque c'est mon travail principal. Et c'était aussi pour déployer une énergie particulière que je ne trouvais pas il y a 5 ans à Arles, que je trouve maintenant davantage. Il y avait une montée en puissance qui était palpable et qui était celle liée à la fondation Luma, à la fondation Van Gogh, à l'école de photo, à Actes Sud, mais toutes ces grandes maisons se parlaient assez peu. Et les gens, c'était un peu la même chose en fait. Il y avait des groupes d'artistes, enfin, peut-être moins d'artistes, de photographes, comme Grégoire. Il y avait des gens qui travaillaient à Actes Sud, qui avaient envie de faire des choses en dehors. Il y avait des entrepreneurs, des retraités, des commissaires, des acteurs. Et en fait, il y avait assez peu de circulation. Et Extramental est né de ça, de cette volonté de créer une circulation. Donc, il n'y a pas de lieu. Il n'y en aura jamais, je pense.
Mais si un jour vous en empruntez, on vous en prête.
Exactement.
Et vous organisez des expositions, parfois des expositions qui combinent plusieurs artistes.
Absolument, des expositions thématiques et collectives. Et il y a même eu des performances de vente lors du marché arlésien le samedi matin entre 9h et midi dans le cadre de l'été indien de Hervé Hoth. Donc voilà, ça va là où il y a, on attend peu l'art aussi. Et Arles, c'est magnifique pour ça. C'est un espèce de terrain de jeu et terrain d'expérimentation formidable.
Donc vous invitez des artistes à faire ces expositions. Margot Bonopéra, vous aussi, vous invitez des artistes. Mais est-ce que les jeunes artistes viennent à Arles très facilement et se disent « Ah ben c'est l'endroit où ça vaut la peine d'être » ou est-ce que au contraire ils sont un peu terrorisés par ces grosses machines tout autour et se disent « Non, c'est vraiment pas mon genre ».
Alors, j'organise une résidence qui invite en effet des artistes de ma connaissance, mon cercle plus éloigné.
Ça s'appelle Opéra, votre résidence.
Ça s'appelle l'Opéra parce que la maison où j'habite a cette plaque provençale qui est Opéra, en écho à une ancienne association d'harpistes qui était dans la maison. Et c'est évidemment un écho direct aussi à mon nom de famille, donc c'était assez amusant.
Et vous aussi, vous avez une double vie d'ailleurs, puisque vous êtes aussi assistante curator à la Fondation Van Gogh, qui a rassemblé des jeunes talents pour donner de l'énergie.
Oui, absolument. Et d'ailleurs, moi, je suis arrivée à Arles pour ce travail, pour travailler auprès de Julia Marchand, de Bichet Curiger. Et du coup, quand je suis arrivée à Arles, je me suis rendu compte aussi que j'avais le besoin de continuer à entretenir des dialogues et des discussions avec des artistes que j'avais rencontrés au préalable. Entre Paris, j'ai fait mes études à Londres aussi. Donc l'idée, c'était aussi de décentraliser un moment les discussions et de pouvoir les faire venir à Arles. Et il est certain que tous les artistes à qui je propose de venir sont extrêmement enjoués et excités de pouvoir venir.
Donc Grégoire et vous, Margot et vous, Julia, vous avez l'impression que le biotope fonctionne ?
Ça fonctionne et le défi est encore devant nous, enfin dans les prochaines années, voir comment toute cette cohabitation qui se passe très bien, et je pense que Arles est vraiment un modèle assez particulier pour ça. On a une cohabitation assez remarquable, et des énergies qui ont besoin d'être captées ici et là. On n'attend pas toujours aussi d'être remarqué par les grands.
Mais vous le serez, hein, j'en suis sûr. Voilà, merci beaucoup à tous les trois. Merci de nous avoir donné un petit peu le dessous de l'hypervisible. Et dans cet invisible, comme dit Liu Fan, il y a beaucoup de choses à voir.
Merci beaucoup.
Merci.
Bonjour Dominique Serena.
Bonjour.
Vous êtes l'ancienne directrice du musée Arlathènes et ce musée est en train de renaître, il va ouvrir dans quelques mois. Et la question que je voudrais vous poser par rapport à ce à quoi nous réfléchissons à Arles, c'est alors que Arles est en train de se transformer par la présence des artistes, par le développement incroyable des rencontres de la Fondation Luma, quel sens a la réinvention et la renaissance de ce musée d'art traditionnel, de culture traditionnelle, d'ethnographie, au regard de tout cela?
Eh bien, je dirais que c'est réactiver la lanterne magique qu'était le musée en Athènes. Car le musée en Athènes, conçu par Frédéric Mistral au XIXe siècle, 1896, n'était rien d'autre qu'une création totalement poétique d'un homme, d'un poète, Frédéric Mistral, mais une création qui se voulait l'écho des modes de vie et de pensée de toute une population, mais qui se voulait aussi lieu d'ancrage et lieu d'inspiration pour cette renaissance du Midi que Frédéric Mistral a appelé de ses voeux depuis 40 ans. Donc renaître, c'est peut-être renaître en tant qu'œuvre d'artiste dans une ville remodelée, repensée, réactivée, revivifiée par les artistes. Quelle belle concordance.
Merci Dominique Serena. C'était l'art et la matière réalisé depuis la ville d'Arles dont nous venons d'explorer les métamorphoses contemporaines. Une émission de Jean Deloisy en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Prise de son Sandrine Malon, réalisation Nathalie Salle, extraits musicaux de l'artiste Rive Schumacher. Une émission préparée en collaboration avec Seam Boutata. Vous trouverez les références des livres sur le site franceculture.fr. Dans quelques instants, Rayon BD de Victor Massé de l'Épinay. Et tout de suite, Personnages en personne par Charles Danzig. Bon après-midi sur France Culture.